5, 4, 3, 2, unité.
L'auberge espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Un artiste qu'on va dire au sens du terme large.
C'est la grosse nouveauté de
l'économie sociale, a du sens.
On est loin de l'abrogation totale des gaz de schiste en France.
Moi, trash, ça va être pégueux, je pense.
L'idée, c'est de sortir de l'ordinateur.
Tout le truc que je kiffe.
Jardin sec, pourquoi le faire? Quels sont les coûts?
On reconnaît la langue du cinquième élément.
Vraiment un mur de guitare, comme un souffle atomique.
Un public habitué.
C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les entrepreneurs d'identité.
Bah, c'est super, on voit que les motards se mobilisent.
C'est gratuit et on ne vend rien, c'est neutre, donc profitez-en.
L'Auberge espagnole, une émission de la rédaction de Divergence FM, présentée par Gilles Couget.
Tout l'an 2012, ça va se travailler, puis début 2013, on lance ça en force.
On lance ça en force, mes bons amis. Le Café Climat dans le vent, c'est ce soir. Petites éoliennes, est-ce que ça marche en ville? Nicolas Catin de l'Agence locale de l'énergie de Montpellier sera accompagné de Vanessa Barraud, juriste à l'association de consommateurs CLCV, spécialisée justement sur les litiges des particuliers vis-à-vis des travaux énergie renouvelable avec des entreprises. Et peut-être Christophe Webel, gérant de l'entreprise Cap Énergie, sera également membre de l'association française des professionnels du petit éolien, sera peut-être avec nous. Il est un petit peu en retard. Ensuite, on recevra Mohamed Djouldem pour une présentation de L'envers de la fraude sociale, une conférence débat avec des auteurs de l'ouvrage L'envers de la fraude sociale, le scandale du non-recours aux droits sociaux, publié aux éditions de la Découverte en 2012. Catherine Chaveau et Philippe Varin, une conférence proposée dans le cadre des formations supérieures du développement social de l'université Paul Valéry, Montpellier 3. Ce sera ce 14 juin de 14 à 17h. Et puis, en fin de Auberge espagnole, c'est Elodie Nouriga, présidente de l'association Champs Libres, qui viendra nous présenter le Festival des architectures vives qui se déroule du 12 au 16 juin 2013 de 9h à 19h dans les cours des hôtels particuliers de l'Écusson de Montpellier, mais aussi à la Grande Motte. Pour l'heure, on part en voiture avec les Miss Kitten. Je l'avais dans la tête ce morceau ce matin en venant à la radio et je me disais mais qu'est-ce que c'était ce morceau de musique ? C'était les Miss Kitten et ça fait du bien même si Nicolas Catin n'est pas venu ni en Mitsubishi, ni en Suzuki, ni en BMW, ni en je sais pas quoi. Il est venu en vélo électrique. Nicolas Catin, bonjour.
Bonjour.
Et il n'est pas venu seul puisqu'il est accompagné de Vanessa Barraud, juriste à l'association de consommateurs CLCV et Sébastien Weibel, gérant de l'entreprise Cap Energy. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Il faut parler très près du micro. On est ensemble pour aborder le Café Climat de ce soir, dernier de la saison, si je ne m'abuse.
Alors dernier, effectivement, avant une trêve estivale.
Voilà.
On prendra pour deux sessions prochaines, en septembre et novembre.
Qui est consacré aux petites éoliennes. Est-ce que ça marche en ville? Donc 28e Café Climat. Ce sera donc ce soir de 18h30 à 20h à l'ALE de Place Paul Bec à Montpellier. Le petit éolien, c'est vrai qu'on ne voit pas énormément d'éoliennes à Montpellier en ville. Mais on en voit quand même une, au moins, quand on passe régulièrement. J'ai oublié le nom de la rue. Mais effectivement, voilà, y en a une qui est assez qu'on voit. Est-ce que c'est une préoccupation des gens, le petit éolien en ville, qui vous a amené à organiser ce Café Climat au départ ?
Alors, on a un peu fait la démarche inverse d'habituellement, en fait, parce que souvent, quand on traite des sujets dans les Cafés Climat, c'est plutôt des choses qui intéressent les gens et on veut vraiment que les gens fassent le mieux possible sur ces sujets-là. Et donc, s'il y a des gens qui veulent investir, maîtriser leur consommation, voilà, on va donner des bons conseils. Là, le petit éolien, le constat était un petit peu différent. C'est que finalement, on se rend compte que, voilà, il y a deux aspects. Il y a un aspect, les gens ont plutôt une opinion favorable des énergies renouvelables. Hein, ça se vérifie dans les différents sondages qui ont été mandatés au niveau national ou local. Donc, c'est plutôt positif. Le grand éolien est plutôt bien perçu, même si les gens préfèrent le voir de très très loin plutôt que de l'avoir plus près. Ouais. Et le petit éolien, finalement, est assez peu connu. Et il y a, donc en parallèle de toute cette vague un peu médiatique, on va dire, plutôt positive, il y a des gens qui surfent un peu sur le créneau et qui vont vendre des petites éoliennes on va dire, bénéficiant de cette vague positive des grandes éoliennes. Voilà, pour faire un petit peu simple. Et concrètement, ce qu'on a constaté, c'est qu'en termes de performance, donc en termes aussi d'investissement, ça coûte, c'est pas gratuit ces choses-là. Il y a les gens, ils débourse de l'argent, ils empruntent parfois des taux assez impressionnants pour justement se payer ces petites éoliennes. Et donc on leur fait miroiter l'indépendance énergétique, le revenu, des choses comme ça. Et on se rend compte, en milieu urbain, le constat et les personnes qui sont là qui sont beaucoup plus techniques que nous et centrées sur ce sujet-là. Pour faire simple. En milieu urbain, le régime des vents, surtout plus on est bas du sol et près des obstacles, il n'est pas bon, il n'est pas régulier. Donc l'éolien n'a pas donné le maximum de sa production. Et donc au final, ce n'est pas vraiment hyper intéressant d'aller sur ce champ-là. Donc c'est aussi un message d'alerte en fait, qu'on veut lancer. Et donc on va présenter ce soir vraiment les caractéristiques techniques d'une bonne installation qui marche bien, qui réussit. Et on verra que, ça limite vraiment le champ le potentiel d'expansion du petit éolien urbain.
Un marché qui, à vos avis, alors je m'adresse à tout le monde, on va dire comme souvent les marchés émergents, a été une occasion d'opportunisme pour certains installateurs ou...
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que sur le petit éolien, c'est un monde vraiment très petit. On a eu une vague après les énergies renouvelables, solaires, photovoltaïques en particulier, une grosse baisse. Et bon nombre de ces installateurs se sont réorientés sur le petit éolien. Pour reprendre un petit peu ce qui a été dit, la problématique du petit éolien, effectivement, ça peut être intéressant, pertinent. Pour ça, il faut quand même respecter un certain nombre de contraintes. Avoir un minimum de vent, on parle de 5 mètres secondes, de l'espace, au-dessus, en dessous, il y a une règle empirique qui dit qu'il faut 75 mètres des obstacles à l'horizontale et 6 mètres au-dessus des obstacles les plus hauts à proximité de l'éolienne implantée. Donc à partir de là, déjà là, on réduit énormément le champ d'application. Et du coup, pour en revenir spécifiquement sur l'éolienne de pignon, en deux mots, ça reste une grosse escroquerie, quoi.
D'accord, c'est vraiment le gadget,
gadget.
La trappe gogo.
C'est la trappe gogo. C'est vendu extrêmement cher pour le réel prix que ça vaut en termes
avec
de production.
Des promesses de production.
Voilà, exactement. On va vous dire que vous allez faire 50, 70, enfin X,
80,
blabla.
80.
80% d'économie. On a vu des cas, enfin on nous a remonté des cas où des gens ont investi dans des petites bécanes à hauteur de 20 000 euros. Quand vous connaissez le prix de la génératrice sortie du bateau. à Marseille, il y en a quoi pour 1500 ou 2000 euros. Il y a un trop gros décalage, il y a des mensonges qui sont faits sur la production, il y a des mensonges qui sont faits sur le... Enfin oui, c'est l'escroquerie.
Et effectivement, nous, au sein de l'association, on est saisi par un nombre grandissant. Effectivement, suite à la diminution des saisines du photovoltaïque, moi j'ai vu énormément de personnes revenir vers moi pour du petit éolien. En pignon de maison, c'est effectivement la spécialité, puisque c'est peut-être plus pratique d'aller démarcher dans un lotissement que d'aller faire les maisons en milieu rural. On rentabilise peut-être plus le commercial, je pense, mais et où on se retrouve avec des personnes qui ont une production qui n'a évidemment rien à voir avec ce qui était annoncé, qui est même des fois nulle et qui est même des fois supérieure à leur consommation d'électricité antérieure à la pose de l'éolienne. Donc on a ça, on a effectivement des personnes qui se retrouvent comme en matière de démarchage à domicile avec des promesses qui restent verbales. Et donc là, le problème en droit, c'est que quand on n'a pas de preuves, on n'a pas de recours. Donc des promesses avec des diminutions à hauteur de 80% des consommations d'électricité qui évidemment n'arrivent jamais. Des crédits affectés à la consommation qui ont des taux qui peuvent être assez importants, mais surtout des durées de remboursement qui sont extrêmement longues. Donc on se retrouve avec effectivement une génératrice vendue, installée à 15-20 000 euros, mais auquel il faut ajouter le crédit. Donc là, on arrive facile aux 30 000 euros. C'est un peu moins cher que le photovoltaïque finalement, mais sauf que comme ça produit rien, ben voilà. Et sans compter les problématiques liées aux installations qui sont pas forcément faites dans les règles de l'art, en dehors de la problématique de productivité. Moi j'ai eu des saisines de personnes qui en arrivaient au point où elles désespéraient de trouver un moyen de démonter l'éolienne parce qu'elles ne pouvaient plus vivre dans la maison. Ça engendre des vibrations sur le bâti, sans compter au niveau des pathologies du bâtiment pour lesquelles à ce jour on n'a malheureusement pas assez de retours, mais on sait bien que ça a des conséquences sur le bâti, et où derrière on a des personnes qui subissent des vibrations et qui ne peuvent plus occuper certaines pièces de la maison, ou alors ils sont obligés d'éteindre l'éolienne, donc qui déjà ne produit pas beaucoup au départ, et qui du coup produit encore moins.
Parce qu'on le voit bien sur les grosses éoliennes qu'on voit quand on roule sur les grands axes, etc. On comprend tout de suite que la génératrice, elle est juste derrière le rotor. Donc toute la masse, elle est en l'air, on va dire. Est-ce que c'est pareil pour les petites éoliennes qu'on pose sur les toits des maisons?
Dans le principe, dans le schéma, c'est exactement la même chose, ou à peu près la même chose. La contrainte, c'est qu'à la différence des grandes éoliennes, là, on est à 1 mètre de la toiture. Et encore. Pour peu que les points d'ancrage prennent du jeu, et obligatoirement ils prendront du jeu. Vous avez on verra ce soir des photos où vous avez des pales qui atterrissent dans le jardin avec une partie du faîtage qui est arrachée. Des cas comme ça, on en a au sein de l'Association française du petit éolien. Tous les jours, il y en a une dizaine qui arrivent. C'est considérable.
Et malheureusement, on a une problématique qui peut avoir aussi son importance, c'est que pour des éoliennes en pignon, on n'a pas d'obligation d'assurance décennale au titre de la responsabilité décennale. Donc, ce qui veut dire que si l'entreprise, comme beaucoup, plie boutique une fois qu'ils en ont vendu une trentaine et qu'ils savent bien qu'ils vont avoir une trentaine de procédures, il n'y a plus de recours pour le consommateur, car il ne peut pas saisir l'assureur de l'entreprise puisqu'il n'y a pas d'obligation d'assurance. La façon dont elles sont accrochées fait qu'elles ont le même, on va dire, les mêmes conséquences juridiques qu'une antenne parabolique. Donc dans ces cas-là, le consommateur se retrouve sans rien.
Est-ce que ça veut dire qu'au niveau du législateur, ça n'a pas été pris en compte ?
Ça n'a pas été pris en compte pour de bonnes raisons. La première, c'est qu'il n'y avait pas de raison que ce soit pris en compte, puisque comme on vient de le dire, ça n'a pas de sens d'aller accrocher une éolienne à une maison. Pour la simple et bonne raison que ça ne peut pas produire comme c'est censé produire.
Même aux cabanes de Pérols
Même si, effectivement, si on est sur des zones comme à Narbonne ou à Perpignan, où on est extrêmement bien exposé, dans tous les cas, vous allez effectivement produire un petit peu. On parle de dizaines de kilowattheures, grand maximum une centaine de kilowattheures dans l'année. Donc pour un investissement de 10 000 à 15 000 euros, c'est ridicule. Et dans tous les cas, votre éolienne, elle est théoriquement prévue pour durer 20 ans. Vous n'aurez jamais une éolienne accrochée sur un pignon qui va rester 20 ans sur ce pignon. C'est impossible. C'est des choses qui ont été déjà faites, refaites. On n'a pas inventé le fil à couper de beurre. Ça fait 15 ans qu'il y a des rapports qui sont sortis sur ce domaine d'activité. Et le résultat est toujours la même chose. Théoriquement, professionnellement, on n'a pas installé d'éoliennes en pignon. Voilà.
Bon. Donc de fait, le législateur n'a pas à aller étendre, ni d'ailleurs en matière de jurisprudence, les juges n'ont pas à aller étendre la responsabilité décennale de l'entreprise, puisque clairement, la façon dont c'est accroché au bâti, la façon dont c'est mis en œuvre, ne relève pas de la garantie décennale.
Il y a peut-être une parade par rapport à ça, parce qu'effectivement, c'est ce type de projet, un peu entre guillemets aveuglément, est aidé par un crédit d'impôt. Il y a un crédit d'impôt actuellement en vigueur qui aide donc à la rénovation énergétique et à la performance énergétique, des logements. Ça concerne aussi les énergies renouvelables, donc le photovoltaïque qui est concerné, mais également le petit éolien. Et là-dedans, le petit éolien, il n'y a pas, je dirais, il n'est pas très très cadré par rapport à l'aide financière du crédit d'impôt. Et donc, c'est aussi une brèche dans laquelle se sont engouffrés, effectivement, des gens forcément...
C'est pour ça que je faisais allusion aux législateurs, parce que les ingénieurs, les gens qui savent, j'imagine que quand même les cabinets ministériels en embauchent quelques-uns pour apporter un peu de jus de cerveau à leur incompétence. J'imagine que là, quand même, ils auraient peut-être dû se dire « Ah bah non, il ne faut pas installer de petites éoliennes ou d'éoliennes de pignon, comme vous dites, etc. » Parce qu'il est avéré que c'est un investissement inutile, dispendieux, contre-productif, dangereux pour la structure du bâtiment. Donc, nous déconseillons à tous les consommateurs d'installer ce type de produit. Enfin, c'est le consommateur, des fois, c'est un peu le gogo, comme on le disait. Hein, une personne âgée qui est là, qui reçoit des VRP toute la journée, qui, au bout d'un moment, signe plutôt que de dire non, parce que c'est toujours plus facile de dire oui. Enfin, et la protection, quand même, du consommateur, elle incombe quand même à l'État, en quelque sorte. Non.
Alors, elles ne sont pas toujours âgées. Hein. Il faut,
oui, non, mais il y a des gogos de tous les âges. Ça, c'est sûr.
Pour le... Et souvent, d'ailleurs, des personnes qui, effectivement, finissent par signer parce qu'au bout de 4 heures, elles commencent un peu à en avoir marre. Et ça me permet de faire une petite piqûre de rappel. Une signature est un engagement. Mm-hmm. Donc, si on signe, on s'engage. Quand bien même, le monsieur, il a dit, c'est pas grave, vous pourrez vous rétracter. Oui, il y a un délai de rétractation légale de 7 jours. Mais quand on a signé, on est engagé. Donc effectivement, le législateur pourrait, en tout cas on l'espère, avoir sur le prochain projet de loi de finances, puisque comme disait Nicolas, ce dispositif fiscal est revu chaque année, pourrait encadrer un peu mieux. Et alors je fais le porte-parole du coup de l'association, mais je sais qu'au niveau de l'association française des professionnels du petit éolien, il y a énormément de rencontres avec les cabinets ministériels à cet égard, pour justement faire en sorte que ce dispositif soit clairement exclu de l'avantage fiscal. Ce qui est d'ailleurs le cas au niveau de notre région, puisque le Conseil régional, clairement, n'attribue plus de subventions aux éoliennes qui sont vendues pour être des éoliennes accrochées en pignon de maison.
D'accord.
Que ce soit des éoliennes de pignon ou des éoliennes à axe vertical. Bon, ça, c'est pour la petite précision. Après, une autre contrainte administrative sur l'implantation de ces éoliennes. Généralement, les sociétés, quand elles font leur démarchage, une fois que le client a signé, ne respectent pas les démarches administratives. Vous n'avez pas de déclaration de travaux en mairie pour l'implantation de l'éolienne sur l'habitation. Ça aussi, ça fait partie des choses qui ne sont pas respectées, ni contrôle du PLU, ni déclaration de travaux. Quoi.
Oui, pour rappel, effectivement, une éolienne en pignon de maison, comme elle modifie l'aspect extérieur du bâtiment, d'ailleurs en pignon d'un bâtiment, quel qu'il soit, du moment que le bâtiment existe en tant que tel au service d'urbanisme, il doit y avoir une déclaration préalable de travaux qui doit être déposée à la mairie et au service d'urbanisme compétent, à la différence d'une éolienne sur un mât. Et ça, effectivement, dans 100% des dossiers qui sont arrivés jusqu'à mon bureau, je n'ai jamais vu de déclaration préalable de travaux. Ce qui peut avoir des conséquences importantes, puisque j'ai plusieurs dossiers contentieux justement avec les services d'urbanisme de différentes mairies, où les mairies ont demandé la dépose pure et simple de l'éolienne, au vu du non-respect des documents d'urbanisme, et sachant qu'en plus, il était effectivement inclus dans le plan local d'urbanisme qu'il ne pouvait y avoir d'éolienne à cet endroit précis.
Peut-être pour terminer, est-ce qu'il y a des exemples, parce que là on parlait de la pale de l'éolienne qui finit avec un morceau du toit dans le jardin. Coup de bol, les enfants jouaient pas dans le jardin ce matin-là. Est-ce qu'il y a eu des accidents parce que s'il y a un blessé corporel, etc., là, ça devient inextricable. Qui est responsable ?
Celui qui est responsable, c'est le propriétaire de l'équipement, donc c'est-à-dire le consommateur. Alors, il est évident qu'il aura des recours à l'encontre de l'installateur. Encore faut-il qu'il existe. S'il n'existe plus, on en revient à la problématique de départ, c'est qu'il n'y a plus. Donc, s'il n'y a pas de partie adverse, il n'y a pas de recours. Il doit y avoir une déclaration qui doit être faite aussi à l'assurance multirisque habitation du consommateur pour pouvoir rajouter cet équipement. Mais ça peut avoir des conséquences dramatiques, alors en termes humains, bien entendu, mais également par rapport à des problématiques de troubles de voisinage où on se retrouve aussi avec des personnes qui, clairement, ne supportent pas, ont vu des reportages à la télé, n'entendent que ça, et on se retrouve avec un contentieux de plus en plus grandissant dans les tribunaux pour des éoliennes sur mât ou en pignon, puisque là, pour le coup, c'est moite-moite. Mais effectivement, c'est le consommateur qui est propriétaire et qui donc se retrouve assigné. Et ça, encore une fois, c'est pas forcément bien expliqué non plus. Tout comme d'ailleurs le défaut de démarches administratives. Quand bien même l'entreprise s'est engagée contractuellement à effectuer les démarches administratives, si elles n'ont pas été effectuées, c'est le consommateur qui se verra débarquer la gendarmerie pour un PV par rapport à l'éolienne présente, etc. C'est pas l'installateur.
Donc il faut être prudent. Sur le marché des entreprises, KPNRJ est une des grosses entreprises du secteur. Enfin, ça fait plusieurs années que vous avez aussi mis beaucoup de photovoltaïques, etc. Au niveau du tissu entrepreneurial des boîtes, est-ce que, comme dans tout marché, j'imagine qu'il y a des entreprises plus vertueuses que d'autres, voire même qui sont carrément des opportunistes qui, bon, comme vous le disiez, hein, ils viennent, ils font un coup, et puis hop, vite, on fait un dépôt de bilan, comme ça on ne paye pas les dettes, et puis hop, on enchaîne ailleurs, etc. Quel rôle KPNRJ ou d'autres sociétés peuvent jouer dans le tissu entrepreneurial? Est-ce que, j'imagine, comme vous êtes aussi membre de l'Association française des professionnels du petit éolien, justement, cette association, est-ce qu'elle a vocation justement à induire un petit peu les bonnes pratiques, etc.
Alors effectivement, au sein de l'Association française du petit éolien, on a mis en place une charte de déontologie à l'image de ce qu'a fait l'association Cémater dans laquelle je suis aussi, pour encadrer, c'est un grand mot, mais en tout cas donner les grandes lignes aux entreprises désireuses d'y adhérer, de pouvoir la suivre et de la respecter. À partir de là, on n'est pas là non plus pour faire les gendarmes.
Non.
On essaye de prévenir au maximum. Il y a un gros travail qui est fait au sein de l'association pour alerter, pour communiquer et pour prévenir. Après, malheureusement, on peut pas aller taper sur les entreprises. On communique dessus, on a un relais avec les espaces info-énergie, le travail...
Ça crée déjà un cadre...
Complètement. Après, c'est quand même difficile d'aller au-delà, quoi. On n'a pas de moyens juridiques pour aller... Maintenant, effectivement, depuis 2007 qu'on a créé l'entreprise, le turnover est assez important dans le monde du petit éolien. Il a été aussi dans le photovoltaïque, mais là, dans le petit éolien, déjà que c'était un petit milieu, clairement, il reste pas grand monde. Mais ceux qui restent sont vraiment des gens compétents et désireux de faire avancer le schmilblick, quoi.
En complément, oui. Pardon, pour ajouter une dernière chose, il y a l'Association française donc des professionnels du petit éolien a édité en fait deux brochures qui sont plutôt, moi je trouve, bien faites et très très compréhensibles de la part du profane, du grand public. Donc on les mettra en ligne. Alors elles sont sur le site internet de l'Association française des professionnels du petit éolien, et on mettra, comme les présentations comme à chaque fois qu'on fera ce soir dans le cadre du Café Climat, on les mettra en ligne sur le site de l'ALE, donc avec des documents complémentaires et notamment des guides qui vraiment, je dirais, mettent en avant les bonnes pratiques. Et voilà, c'est ce qu'on évoquait, hein. L'éolienne qui marche très bien, elle est très très haute, donc au moins plus de 15 mètres de haut, si ce n'est encore un peu plus si on peut, donc sur un mât, en haut d'une colline, pas boisé, avec du vent régulier. Voilà, enfin, je vous fais le topo, on ne sait pas ce qu'on rencontre autour de Montpellier très facilement. Voilà.
Oui, voilà, pour donner des chiffres, parce que les chiffres, ça marque toujours les esprits. À partir de quand c'est intéressant de faire du moyen éolien? Donc c'est quoi, 15 mètres sur des puissances beaucoup plus importantes, avec tout un stock de batteries aussi, parce que le dispositif ne se limite pas à l'éolienne elle-même, hein. Et j'imagine qu'il faut aussi des batteries pour pouvoir faire le...
Alors l'histoire des batteries, ça c'est le reportage de France 2 d'Envoyé spécial, effectivement, avec l'éolienne de Pignon sur batterie. Alors là, encore une fois, il y a aucun respect des...
Là, je parle que des éoliennes sur pylône.
Sur pylône, j'ai bien compris, mais effectivement, la remarque était par rapport à ce fameux reportage. Vous avez deux applications. L'éolienne type raccord des réseaux, où effectivement, vous êtes là pour produire, consommer ce que vous produisez, et s'il y a un surplus, ça repart sur le réseau. Et deuxième cas, où vous êtes en site isolé, et là, vous êtes obligé de stocker votre énergie, vous la consommez au fur et à mesure de la disponibilité. Dans les deux cas, on est sur mât, minimum 12 mètres, voire au-delà. Effectivement, plus on monte en hauteur, plus les vents sont laminaires, et plus la production sera intéressante. Bon, c'est à étudier au cas par cas, quoi.
Et en fonction des besoins aussi, je me permets.
Mais effectivement.
En fonction des besoins de la famille, parce que moi je vois beaucoup, pour l'éolien, pour le photovoltaïque, pour tout, hein, des systèmes qui sont vendus, qui suffiraient 10 fois à la consommation que la famille, dont la famille a besoin. Donc au départ, peut-être essayer déjà de savoir ce dont on a besoin, et à partir de là, essayer de construire un système qui correspond aux besoins et à l'environnement.
Réfléchir avant d'agir. Toutes les autres questions que vous pouvez vous poser sur le petit éolien, eh bien vous aurez les réponses ce soir de 18h30 à 20h à l'agence locale de l'énergie de Montpellier, 2 place Paul Bec. Vanessa Barraud, Sébastien Webel, Nicolas Catin, on vous remercie d'être venus dans le studio.
Merci.
Vous souhaite un très bon 28e Café Climat, et puis j'imagine que le thème du Café Climat de septembre est déjà calé.
Alors déjà qu'à aller, on va organiser une petite balade en vélo en ville pour montrer les do's and don'ts, là, comme on dit en anglais, ou plutôt les bonnes choses et les moins bonnes en termes de transition énergétique en ville, parce qu'on voit les trucs sympas et on voit aussi les trucs qui sont un peu aberrants, on vient un petit peu de l'évoquer, donc on mettra un petit peu l'accent dessus, ce sera limité hein, pour le coup, on partira à 10-15 vélos et on fera un petit tour dans Montpellier pour aller illustrer tout ça.
Ce qui vous pourra vous permettre, si vous y participez, chers auditeurs, eh bien de prendre un petit peu d'avance sur le train de la vie. Non pas une année-lumière d'avance, mais c'est néanmoins le titre de Nicole Willis and the Sound Investigators qu'on va écouter, Light Years Ahead. Et oui, ça c'est un fade-out aussi rapide qu'un TGV. On écoutait à l'instant Nicole Willis and the Sound Investigators. Le titre c'était Light Years Ahead. Et à présent, on va parler d'une conférence qui aura lieu ce vendredi 14 juin de 14 à 17h à l'amphithéâtre H du bâtiment de la même lettre de l'université Paul Valéry. Une conférence intitulée L'envers de la fraude sociale. Pour en parler avec nous, c'est Mohamed Djouldem qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors il faut parler très près près du micro. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'université Paul Valéry et vous avez organisé cette rencontre autour de l'ouvrage publié chez La Découverte, d'un ouvrage intitulé « L'envers de la fraude sociale », donc le scandale du non-recours aux droits sociaux. Alors les auditeurs et auditrices qui nous écoutent ont en mémoire assez fraîche les paroles du précédent président de la République, Nicolas Sarkozy, qui avait tout d'un coup fait un haro sur cette fameuse fraude sociale, alors que cet ouvrage semble démontrer que, on va dire que les chiffres de la fraude sociale seraient totalement marginaux si on les compare aux chiffres du non-recours aux droits sociaux. Nul n'est censé ignorer la loi, dit le proverbe, mais c'est vrai que les lois aujourd'hui sont tellement nombreuses, complexes, que même si on les a sous les yeux, des fois on n'y comprend rien. Donc cet ouvrage finalement fait un bilan sur les gens qui ne réclament pas leurs droits, peut-être même en le sachant, tout simplement parce qu'ils estiment que finalement, allez, je ne vais pas aller prendre 120 euros alors que finalement, j'en ai peut-être pas besoin. Alors ça, ce serait peut-être la bonne excuse. Mais il y a aussi des gens qui ignorent complètement leurs droits, qui en auraient besoin de ces aides et qui ne les perçoivent pas. Comment êtes-vous rentré en contact avec Catherine Chauveau et Philippe Varin, qui seront présents ce vendredi? Et quand avez-vous décidé d'organiser cette conférence sur ce thème qui risque d'intéresser beaucoup de monde?
Bien, merci pour cette invitation et pour discuter justement de cette conférence. Avec Philippe, ça fait déjà quelques années qu'on travaille ensemble. On avait déjà travaillé sur les questions environnementales il y a quelques années. Et c'est à l'occasion d'une rencontre scientifique à Grenoble qu'on a commencé à discuter de ces questions-là, les impensés des politiques sociales. Mmh. Et ce qui m'intéressait dans cette question du non-recours, c'était surtout le volet financier, où on insistait beaucoup dans le précédent gouvernement, mais même avant, sur le coût des politiques sociales, et où on axait l'essentiel des débats sur la dépense. Mais ce débat était surtout orienté sur une définition négative de la dépense. Et d'un autre côté aussi, on insistait sur le fait que ces dépenses sont certes dues au fait qu'il y a un nombre important de bénéficiaires de prestations sociales, mais aussi de fraudeurs aux prestations sociales. Alors, ce qui nous a intéressé, c'est de constater d'une part qu'il y a beaucoup d'économies qui sont faites en raison du non-recours, d'une part, et d'autre part que la fraude sociale, est, certes, elle existe, mais comparée à d'autres fraudes, elle est nettement inférieure. Et les autorités nationales le savent, puisqu'il existe un rapport qui a été fait au Sénat sur le volume de la fraude fiscale. Et je rappelle que le montant de cette fraude est l'équivalent de la dette française. Et par contre, là, au contraire, il n'y a aucun mécanisme qui a été mis en place pour sanctionner ces fraudeurs. Alors, il y a aujourd'hui, dans beaucoup d'organismes, comme ceux de la sécurité sociale, où on recrute précisément des contrôleurs spécialisés dans la lutte contre la fraude. Donc, ce vendredi, on va débattre de ces aspects-là. On va d'abord essayer de discuter cette notion de non-recours, comment elle évolue, comment elle est arrivée en France. Dans les années 30, c'était des pays anglo-saxons. À partir des années 90, ça a commencé en France. Ensuite, on va essayer de voir comment on peut quantifier. C'est une question extrêmement redoutable, d'autant plus que les destinataires des prestations, certes, on les connaît, mais quand ils cherchent leurs droits, mais ceux qui ne cherchent pas leurs droits sont invisibles et donc difficiles à quantifier. Et donc, c'est un défi qui nous est lancé pour savoir qui sont ces non-recourants. Ensuite, bon, après, il y a les catégories de différents non-recourants qu'on va aussi discuter.
Alors, ce qu'il y avait, c'est que le message qui a été transmis, on a parlé du quinquennat Nicolas Sarkozy, mais comme vous l'avez dit, ça date aussi d'avant. Le message qui est transmis induit une suspicion à l'encontre des bénéficiaires légitimes de ces prestations, ce qui déjà est quelque part un petit peu toxique pour un bon fonctionnement démocratique.
Oui, disons que la manière dont le précédent gouvernement essayait de sélectionner, essayait de construire, de sélectionner un certain nombre de problèmes. On sait que il y a toutes sortes de problèmes qui existaient, un problème du chômage, problème de la précarité, etc., etc. Pour éviter que ces problèmes atterrissent sur agenda ou occupent largement l'agenda, eh bien, on va progressivement faire monter en puissance d'autres problèmes qui ont des effets à la fois en termes de stigmatisation, mais aussi en termes politiques, une importance considérable. Donc, cette construction a essayé d'imposer une vision selon laquelle le problème numéro un qui se pose à la sécurité sociale, c'est certes de dépenses importantes, mais parmi ces dépenses, c'est surtout la fraude, ce qui permet de faire l'économie d'un débat sur les recettes. On parle, et on sait très bien que depuis les années 70, toute une série de politiques ont été menées autour de l'exonération, autour de la baisse des charges, particulièrement vis-à-vis des entreprises. Or, dans ce débat, qui à mon avis est très, très réducteur, il y a d'un côté, alors on sait que pour qu'un organisme fonctionne, il lui faut des ressources, et ces ressources lui permettent d'assurer ses dépenses, mais là, on insiste exclusivement sur les dépenses, d'accord ? Et on exclut tout débat sur les recettes. Ça veut dire qu'on insiste régulièrement sur les destinataires des politiques sociales, les bénéficiaires, mais on n'insiste jamais sur les contributeurs. Et donc, ça, bien entendu, ça pose un sérieux problème. Donc, ça ne permet pas de faire des investigations importantes pour savoir à quel moment les problèmes se posent. Ça, c'est le premier. Le deuxième élément, c'est qu'on oublie que parmi les dépenses, certaines dépenses sont récupérées par l'État pour, par exemple, alimenter la caisse des retraites. C'est le cas, par exemple, des caisses d'allocation familiale. Et donc, on va reformuler les conditions d'accès aux allocations. Par exemple, on va réduire le quotient ou on va imposer. Bon, c'est finalement c'est le quotient qui a été choisi et non pas la taxation. Voilà un petit peu. Pour pouvoir rendre compte, justement, de ce débat sur la dépense, il faut examiner attentivement les comptes et voir les deux côtés. Dans une comptabilité privée ou publique, il y a deux aspects. Il y a le débit et le crédit. Là, on nous a simplement sur le débit et pas le crédit. Donc, le débat est totalement incomplet.
D'autant que sur la perception, parce que même quand on a de plein droit accès à une prestation, quelque part, soi-même, on a toujours l'impression quelque part de demander quelque chose, de demander l'aumône en quelque sorte. C'est jamais très satisfaisant pour soi-même, hein, de devoir aller faire des demandes ici ou là pour avoir ceci, pour avoir cela. On préférerait avoir à soi-même les moyens et puis d'assumer totalement tout ça. Et ce discours qui insiste justement sur la dépense et comme vous le dites, et non pas sur la recette, est-ce qu'il n'a pas tendance justement à culpabiliser les gens encore plus et à augmenter cette non-perception ? Parce que la fraude à l'ensemble des prestations sociales est estimée à 4 milliards d'euros par an. Son envers, à savoir le non-recours à ces aides de la part de très nombreuses personnes qui y ont droit, est bien supérieure. Chaque année, 5,7 milliards d'euros de revenus de solidarité active, 700 millions d'euros de couverture maladie universelle complémentaire, 378 millions d'euros d'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé, etc., ne sont pas versés à leurs destinataires. Est-ce qu'on ne les a pas conditionnés, justement, à culpabiliser encore plus que de raison, finalement, pour se dire il faut faire des démarches, il faut faire des papiers, on va mal me regarder, etc. Est-ce qu'il y a, justement, il n'y a pas un effet pervers à ce discours d'augmenter ce non-recours ?
Oui, on peut constater à l'observation qu'il y a toute une série de raisons qui expliquent que certains titulaires de droits sociaux adoptent des comportements de non-recours. on peut premièrement considérer que le formatage administratif est tel qu'il déroute certains, parce qu'ils ne maîtrisent pas ces formulaires. On peut également considérer que l'information n'est pas suffisamment distribuée, n'est pas accessible. On peut considérer aussi que le coût à payer, se déplacer, remplir les formulaires, etc., est beaucoup plus élevé par rapport à ce que la personne peut estimer. Et on peut considérer aussi que le discours qui est tenu sur la fraude et notamment sur l'assistanat produit un effet, c'est-à-dire que des gens qui sont déjà exclus, on va renforcer leur exclusion. Mmh. Et on peut estimer aussi qu'il existe une catégorie de citoyens qui délibérément, même qu'ils ont droit et ils savent qu'ils ont des droits, refusent d'accéder à ces droits. Alors la question se pose, c'est est-ce que c'est un comportement ordinaire ou est-ce que c'est un comportement politique ? La thèse que je défends avec mes collègues, d'autres ne sont pas d'accord avec moi, c'est que c'est un comportement politique. Pourquoi c'est un comportement politique ? Parce que ces individus ont une certaine représentation de ce que c'est que l'État social, de ce que c'est que la solidarité, de ce que c'est que les droits, et de ce que c'est que l'intérêt général, le service public, etc. Ils ont été socialisés dans cet esprit-là d'une citoyenneté républicaine où la solidarité est au fondement même du vivre ensemble. Mmh. Vient aujourd'hui une nouvelle culture, notamment la culture néo-managérielle, qui véhicule d'autres valeurs et qu'au cœur de la société, ce n'est plus la solidarité, mais la compétitivité. Mmh. Donc, il y a un choc de valeurs et ces individus préfèrent ne pas y aller que de cautionner ce système-là. Et là, c'est un rejet de valeurs, c'est un rejet de normes, c'est un rejet de façon de gouverner la société qui est manifestée par ces individus. Donc on distingue, il y a ceux qui sont non recourants par méconnaissance, par ignorance ou par complexité du système, et il y a ceux qui sont non recourants volontairement, et là, je pense que c'est un comportement politique. Mmh.
Alors les collectifs d'auteurs qui signent cet ouvrage, L'envers de la fraude sociale, le scandale du non-recours aux droits sociaux, invitent le nouveau gouvernement à s'occuper prioritairement de ce phénomène du non-recours, car, je cite, « ce qui n'est pas dépensé n'est en rien une économie. Cela signifie au contraire l'appauvrissement de bon nombre de ménages et la destruction de recettes pour la collectivité. Puisse-t-il entendre cet appel ?»
Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Et les réformes concernant la politique familiale, les allocations familiales, la réforme sur les retraites, la réforme sur l'allocation chômage, me donnent du tout l'impression que le gouvernement est, comme le précédent, autiste à ce problème. Je rappelle que c'est un problème qui est, je dirais, d'une certaine façon, produit, et en même temps ignoré par les autorités publiques. Mmh. Certes, il y a eu la conférence sur la pauvreté. Certes, à chaque fois, des membres du gouvernement interviennent et évoquent la question du non-recours. Mais nous n'avons pas, jusqu'à présent, vu un dispositif mis en place et qui atteste de la prise en charge de ce problème. Nous assistons plutôt, au contraire, à la conditionnalité de l'accès à certains droits, voire même leur réduction. Mmh. Je pense que la politique d'austérité est largement responsable de ce point de vue.
C'est une conférence qui, à l'entrée libre et gratuite, c'est ce vendredi 14 juin 2013 de 14 à 17h à l'amphithéâtre H du bâtiment H à l'université Paul-Valéry, avec donc Catherine Chauveau, chargée d'études à Audenor, Philippe Varin, directeur de recherche au CNRS, enseignant à Sciences Po Grenoble, et vous-même, Mohamed Djouldem, maître de conférence en sciences politiques à l'université Paul-Valéry Montpellier 3. On vous remercie d'être venu nous accorder ces quelques instants dans les studios de Divergence. Et on va se quitter avec un titre qui tombe sous le sens, Equal Rights, des droits égaux, et c'est Peter Tosh qui nous chante ça. Merci. Crying out for peace, yeah.
Le grand Peter Tosh sur les ondes de Divergence. On accueille bien à présent Élodie Nouriga, présidente de l'association Champs Libres. Bonjour.
Bonjour.
On est ensemble pour parler de la 8e édition du Festival des architectures vives qui va se dérouler du 12 au 16 juin. Donc ça démarre demain de 9h à 19h dans les cours des hôtels particuliers de l'écution de Montpellier. Mais pas que, puisque ça va aussi se passer à la Grande Motte. On va y venir. Depuis le 5 juin, on peut retrouver toutes les informations nécessaires au pavillon du Festival Architecture Vive de 9h à 18h à l'hôtel Saint-Côme, 32 Grand Rue Jean Moulin. Et cette année, c'est sur le thème du souvenir que pas moins de 160 équipes internationales ont répondu présentes à l'appel à candidature de cette année. 15 d'entre elles et une université invitée ont été sélectionnées pour vous présenter des œuvres toutes plus surprenantes les unes que les autres pour cette 8e édition du Festival des Architectures Vive. Peut-être avant de détailler ces équipes et puis tout ce qui... Les gens vont pouvoir voir et peut-être toucher pendant ce festival. Revenir un petit peu sur la genèse de ce festival, qu'est-ce qui a fait naître cette initiative ?
Alors au départ, ce festival a été initié en fait en 2004 à Paris par un groupe d'architectes qui avait créé ça, mais dans des espaces publics. Et nous, en tant qu'architectes, donc quand je dis nous, c'est Jacques Brion et moi-même, nous avions été invités pour y faire une installation. L'idée était née de pouvoir retrouver ce festival un petit peu partout en France. Et en 2006, donc, on l'a fait communément entre Paris et Montpellier. Suite à 2006, Paris s'est arrêté. Donc depuis, c'est exclusivement nous qui portons ce festival dans la région.
Alors, pour cette 8e édition, il y a une innovation. C'est pour répondre à un souhait de développement du festival, vous avez décidé de mettre en place la première extension du festival à la Grande Motte. La Grande Motte qui a reçu le label du patrimoine du XXe siècle du ministère de la Culture et de la Communication en janvier 2010. La Grande Motte qui, architecturalement, a toujours fait les gorges chaudes des antis comme des pros.
Tout à fait, on ne peut pas rester indifférent à l'architecture de Balladur sur la Grande Motte, qui est, à notre sens, en tous les cas, une architecture remarquable. L'idée du festival est de faire dialoguer l'architecture contemporaine avec le patrimoine. Et pour nous, c'était tout à fait logique de partir de Montpellier, un patrimoine historique, et de poursuivre sur la Grande Motte, avec cette fois un patrimoine contemporain.
Alors, dix installations pourront être découvertes pendant ce festival. Une université invitée dans l'écusson de Montpellier, donc du 12 au 16 juin. Les cours des hôtels particuliers vont ouvrir leurs portes au grand public. C'est vrai que les gens méconnaissent souvent le nombre impressionnant d'hôtels particuliers qu'il y a dans le centre-ville à Montpellier. Derrière des portes, comme ça, très, parfois très discrètes, parfois moins. Mais on imagine rarement ce qui peut se passer derrière. C'est aussi pour laisser la place au travail d'une jeune génération d'architectes et faire découvrir les lieux emblématiques de la ville. Et puis, par la suite, il y aura 5 installations à la Grande Motte du 19 au 23 juin dans le cadre balnéaire de la Grande Motte et dans un dialogue avec une architecture inscrite dans le patrimoine contemporain. Ça ne doit pas être facile d'organiser des installations d'architectes un petit peu partout comme ça en ville. C'est quoi le principal défi techniquement parce que j'imagine qu'il y a des installations qui peuvent parfois être importantes, voire monumentales.
Oui, alors monumental, pas nécessairement, parce que l'idée est d'avoir en fait des architectures qui viennent dialoguer avec un site, avec un espace dans lequel elles vont prendre place. Alors les plus grands défis, c'est effectivement d'arriver à trouver cette cohérence, cette cohésion avec les lieux dans lesquels elles s'insèrent, de venir dans une volonté de dialogue et de révéler un patrimoine, de montrer que l'architecture contemporaine est là aussi pour valoriser un patrimoine historique, un patrimoine contemporain, et qu'il faut peut-être de plus en plus accepter aussi cette dimension-là pour faire avancer l'architecture.
Alors 160 équipes, 15 sélectionnées, ça fait moins d'une pour 10. J'imagine que le travail de sélection a dû être long et difficile.
Oui, tout à fait. On a constitué un jury sur lequel ça nous a pris beaucoup de temps, une très longue journée, on va dire, pour arriver à extraire effectivement 15 candidatures parmi ces 160. Cette année, on a reçu à peu près 50% qui venaient de l'étranger, 50% donc de France, et puis bien sûr des candidatures assez lointaines, puisque dans les équipes retenues, nous avons une équipe qui vient du Canada, une équipe qui nous vient de Barcelone, c'est beaucoup plus proche tout de même, et une équipe qui nous vient de Londres également, les autres étant des équipes françaises.
Voilà, il y a aussi Montréal, je le dis même pour la France, Nice, Paris, Cambridge, qui est l'université invitée, le Harvard University Graduate School of Design. Et puis il y a Londres aussi, donc Barcelone, on l'a dit. La Suisse aussi représentée à travers souvent des équipes qui ont un nom. Alors ça fait penser comme un peu des équipes de sport ou des équipes ou des compagnies de danse à la limite qui ont un nom avec chacun qui est dedans. Est-ce que ce sont à chaque fois des structures, des cabinets d'architectes identifiés qui exercent d'habitude, etc. Ou est-ce qu'il y a des équipes qui se créent comme ça, d'architectes qui viennent d'ici ou là et qui disent « Ah tiens, il faut qu'on aille au festival, qu'on propose quelque chose, etc. »
Je pense qu'on est plutôt dans cette deuxième posture, puisque vraiment la volonté de mettre en avant une jeune architecture, de très jeunes architectes, certains sont diplômés à peine depuis 2 ans, ils travaillent souvent encore chez d'autres architectes, et c'est un peu l'occasion aussi de leur mettre quelque part le pied à l'étrier, de par le prétexte de cette installation, de les amener à travailler ensemble. Alors certains groupes se connaissent depuis longtemps, ont cette volonté de travailler ensemble et par le biais du festival, c'est une manière de concrétiser ces volontés.
Alors un des exemples, ça peut être justement A3P où Laura Narjo, Guillaume de l'Oliveira, Aurélie Arlin, Guillaume Morland, c'est Montpellier, Lausanne, donc c'est une passerelle comme ça entre par-delà le lac Léman, on va dire ça comme ça.
Oui, tout à fait. Alors la personne qui est de Lausanne est une personne qui a commencé ses études à l'école d'architecture de Montpellier, donc ils sont tous rencontrés ici à l'école. Après, elle a poursuivi. Maintenant, aujourd'hui, elle est diplômée de l'EPFL de Lausanne, mais néanmoins, on voit que ces liens continuent et qu'aujourd'hui, ils souhaitent aussi pouvoir porter quelque chose ensemble. Et l'installation qu'ils font sur la Grande Motte est assez remarquable, d'autant que ce n'est pas qu'une installation, puisqu'en fait, ils vont, dès aujourd'hui, travailler avec une école primaire de la Grande Motte, et ce sont les enfants également qui vont prendre part à l'élaboration de l'installation qu'on pourra avoir dès la semaine prochaine.
Mmh. Les enfants, en parlant des enfants, est-ce qu'il faudrait enseigner l'architecture aux primaires ?
Ah oui, je pense, oui, tout à fait. L'architecture est un grand oublié de l'enseignement. Bon, j'imagine que chacun, avec sa propre discipline, tiendrait le même discours. Mais je pense, parce que l'architecture, c'est ce qui constitue notre environnement quotidien. On y baigne tous les jours dedans. Et je pense que son éducation devrait être faite bien plus tôt.
C'est ce qui peut donner du sens aux mathématiques.
Aussi.
Souvent, on demande aux profs de maths, oui, mais à quoi ça sert F de x égale 1 sur x? Et rarement, on a une réponse genre, bah, ça peut t'aider à calculer la résistance des matériaux si tu veux construire ta maison. Ça manque. C'est donc, on retrouve évidemment tout le programme du Festival des Architectures Vives sur ce que je viens de dire.com, donc Festival des Architectures Vives, tout attaché.com. Néanmoins, qu'est-ce qui, quand vous avez fait la sélection parmi tous ces candidats, est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment surprenantes et qu'il faut absolument pas rater?
Oui, je pense qu'on a... Là, on vient de faire une première visite donc, avec la presse ce matin pour révéler, découvrir les premières installations sur Montpellier. Et je crois qu'il faut vraiment prendre le temps. Prendre le temps d'abord de parcourir la ville. Ça permet aussi de redécouvrir des lieux et pousser ses portes. Et vous verrez, vous serez... Je ne vais pas tout vous révéler dès maintenant. Il faut absolument que vous veniez le visiter. Et vous serez surpris par la fraîcheur, surtout, des installations qui sont proposées.
Voilà, on a tout dit. On vous remercie, Elodie Nouriga. On vous souhaite un excellent 8e Festival des Architectures Vives. Je rappelle, c'est de 9h à 19h, 12 au 16 à Montpellier. Et puis, ce sera pour ce qui concerne la Grande Motte. Je retrouve ma petite fiche. Ce sera du 19 au 23 juin pour les 5 installations à la Grande Motte. Festival des Architectures Vives, toutattaché.com. Merci beaucoup. Très bientôt sur les ondes de Divergence. On va se quitter avec, c'est pas une chanson spéciale, spécialement dédié à l'architecture, mais c'est une maison en os, The Bone House, et c'est Dead Weather qui nous chante ça. On remercie François qui a réalisé cette auberge espagnole, on fait un clin d'œil à Bruno Bertrand, et on vous souhaite une bonne fin d'après-midi à l'écoute des programmes de Divergence.
For your